Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je vous propose que nous prenions comme référence un passage dans l'Ancien Testament, dans notre Bible, le psaume 107. Voilà, c'est un très beau psaume. On l'a appelé le psaume des détresses, mais c'est vrai qu'il porte ce nom, mais il y a là toute une richesse d'espérance, d'espoir derrière cette écriture. Alors, je rappelle la référence, donc psaume 107, verset 4. Ce sera tout simplement ce verset qui va nous inspirer dans notre méditation, et voilà ce que nous lisons, ce que nous avons sous les yeux. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Voilà, c'est tout un programme d'une situation où, en effet, nous sommes confrontés avec des hommes qui, probablement des Israélites, forcément, me semble-t-il, et qui, là, nous rappellent un épisode de l'histoire d'Israël lorsqu'ils se trouvaient à la sortie d'Égypte et qu'ils se dirigeaient vers le pays de Canaan. Et ils erraient naturellement dans le désert du Sinaï. Je rappelle le texte parce qu'il y a des mots forts, il y a des choses à souligner qui vont nous servir dans notre méditation. Il nous est dit qu'ils erraient dans le désert, marchant dans la solitude et dans peut-être sans perspective particulière, puisque le désert c'est vraiment l'espace, le grand vide, et où ils cherchaient finalement à trouver un lieu où ils puissent se reposer et puis aussi y faire leur demeure. Il y a ces expressions errer, l'errance, la marche qui est soulignée, la solitude aussi, marcher dans la solitude, et puis le désespoir parce que le texte est bien clair, il nous dit mais sans trouver. Voilà. Dans cette situation où les hommes se tournent de droite et de gauche, mais véritablement, l'horizon est toujours le même, et dans le désespoir, pour trouver un refuge. Et ça, c'est le mot qui est important, parce qu'on peut le traduire de différentes façons. Là, il est question d'une ville habitée, il est question d'un refuge, il est question d'un lieu où véritablement on peut y trouver la paix, y trouver la sécurité, le repos, en d'autres termes, y trouver le bonheur. Alors, cela nous rappelle, justement, dans cette recherche désespérée, dans parfois, cette situation où on se trouve seul, une situation anxiogène, on peut dire cela comme ça, où, véritablement, nous nous souvenons, et cela, ça peut faire écho à ce que Jésus nous dit, demandez, et vous trouverez. Demandez, et l'on vous répondra. Demandez et vous trouverez finalement l'exaucement. Cherchez et à ce moment-là, vous découvrirez, vous trouverez. Et puis frappez, c'est-à-dire une intensité de demande, d'insistance. Et là, on vous ouvrira la porte. C'est ce que nous pouvons mettre en parallèle dès le départ de notre méditation autour de ce texte. Vous savez que j'ai titré d'ailleurs ce message, les habitudes parasitées. Et on va voir ce qu'il peut en ressortir et ce que nous pouvons retirer dans une situation d'errance, dans une situation où on marche sans savoir tellement où l'on va, mais toujours à la recherche et toujours dans cette perspective de trouver quelque chose de meilleur. Les habitudes parasitées. Les habitudes de la vie, lorsque nous y regardons de plus près, lorsque nous voulons nous pencher sur la question, nous font souvent tourner en rond. C'est sécurisant d'avoir des choses à l'heure fixe, d'avoir toutes sortes de coutumes, des traditions même, ça va beaucoup plus loin que les choses indifférentes de la vie. Mais quelquefois, eh bien, ça peut nous amener tout simplement à, sans s'apercevoir que nous errons, sans s'apercevoir que nous n'avançons pas. Eh bien, justement, j'aimerais illustrer ce propos, justement, de ces habitudes de vie qui nous font tourner en rond, à travers eh bien, une histoire que j'ai saisie, que j'ai trouvée, et qui peut-être est une bonne illustration. Imaginez-vous qu'on se trouve dans un laboratoire de biologie animale, et un scientifique se livre à une expérience étonnante avec des chenilles processionnaires. Alors, on sait ce que c'est, parce que bon, on a peut-être tous les uns et les autres fait l'expérience des démangeaisons, dues justement à certaines saisons de l'année, eh bien, rencontrer des chenilles, et puis, ben voilà, c'est tout à fait déconseillé de les toucher, ou même de les approcher. Parce qu'elles sont, toxiques, il y a quelque chose. Alors on en a vu quelquefois, et bien là, sur des mètres et des mètres, elles tombent des arbres, et puis elles sont là, le long du sentier, sur le chemin, et c'est vrai que quelquefois il y a des conséquences qui peuvent être très graves. Hein, on a connu des personnes qui se retrouvent à l'hôpital, parce que bon, voilà, quelquefois, eh bien, c'est toute une procession de chenilles qui leur est tombée dessus, ou alors malencontreusement, les ayant rencontrés dans un fossé ou autre chose. Donc, on sait tout ce que c'est que la chenille processionnaire. Alors, ce scientifique, ce savant, eh bien, il a eu l'idée de les disposer et de les aligner sur le rebord d'un grand pot. Imaginez-vous, tout ça c'est une histoire naturellement. Sur le rebord, il les a alignés les unes après les autres. Lui avait dû certainement prendre des gants et se protéger naturellement. Et où il y avait au milieu de ce grand pot une plante. Une plante qui était particulièrement eh bien, affectionnée par les chenilles. Alors, il s'est passé une chose, c'est que ces chenilles, les unes derrière les autres, se sont trouvées à faire la ronde autour du pot. Elles avaient bien naturellement décelé et détecté qu'il pouvait y avoir de la nourriture à leur portée, mais elles ont tourné, et elles ont tourné. Elles ont tourné pendant plusieurs jours, une semaine. Et à un moment donné, elles sont mortes de faim et d'épuisement. Parce qu'elles continuent à tourner, tout simplement. Alors, aucune de ces chenilles n'a eu l'idée de sortir du rang pour s'aventurer jusqu'à la plante et la dévorer, la manger. Voilà. Pourtant, la nourriture n'était qu'à quelques centimètres. Et c'est ça, justement, ce qui fait un petit peu, excusez-moi l'expression, mais le piquant de l'histoire. Quelques centimètres de cette plante, mais elles ont continué tout simplement eh bien, à faire leur ronde. Parce que leur instinct suiveur, et ça j'insiste sur l'expression, leur instinct suiveur était plus fort que leur volonté de survivre. Et naturellement, c'est bien le problème, et il y a naturellement ce phénomène naturel chez ces chenilles, certainement dans d'autres espèces, des animaux, probablement les poissons, enfin les mammifères, je ne sais pas, je ne sais que trop. Mais toujours est-il que, eh bien, là, elles ont préféré faire le choix de continuer à tourner en rond au lieu, tout simplement, eh bien, d'aller se nourrir et de pouvoir, eh bien, être sauvées. Je pense que il y a quelque chose qui, dans la vie des hommes, c'est un peu la même chose. On a bien entendu parler des boutons de Panurge. Ça, on le sait, c'est mémorable. Et puis, dans bien d'autres situations où un animal, eh bien, meneur, voilà, s'en va et se précipite et tous les autres le suivent. Il y a une histoire de porc, une histoire de pourceau dans la Bible. Et avec naturellement tout un arrière-plan qui est à découvrir dans l'évangile de Marc, où là, eh bien là, un porc qui était élevé dans une zone où les Juifs ne mangeaient pas de porc, mais peu importe, ça ce sont les annexes de l'histoire, où un porc va se précipiter des pentes escarpées de la montagne, et puis il va emmener tout le troupeau, tout simplement. Et peut-être, dans certaines situations, dans certaines observations, peut-être les hommes sont un peu la même chose. Il suffit que quelqu'un crie un mot d'ordre, et puis tout le monde va le suivre sans réfléchir. Hein, et quelquefois, on risque même de la vie. Quelquefois, c'est par obligation, c'est par nécessité. Puis quelquefois, c'est tout simplement parce qu'il y a un manque de réflexion, et puis c'est un conditionnement, tout simplement. Nous avons besoin de nous souvenir, et là, je vais quand même recentrer sur ce que nous dit la Bible, hein, sur ce que nous dit la parole de Dieu. Souvenons-nous de ce qui, un jour, est arrivé, tout simplement, à toute une génération d'Israélites, hein, que l'on pourrait peut-être appeler les Israélites chenilles. Alors, je ne veux pas faire offense, eh bien, à cette catégorie d'hommes, mais toujours est-il que l'histoire nous est donnée à travers la Bible. Pourtant, on sait très bien que lorsque les choses se sont passées et rapportées dans le livre du Deutéronome, que nous allons lire un texte tout à l'heure, hein, pourtant, Israël, au moment où les choses, ils ont tourné en rond, bien sûr, dans un espace beaucoup plus grand, mais quand même, ils étaient qu'à quelques kilomètres de Canaan. Ça fait un peu comme la plante dont nous avons défini. Et ils ont tourné, et puis voilà, jusqu'au moment où l'Écriture sainte nous dit, mais ils sont tous morts dans le désert. Voilà. C'est l'autre génération, la génération de leurs enfants, de leurs petits-enfants, qui eux sont rentrés dans le pays de Canaan. Mais toute cette catégorie, tous ces individus qui avaient connu l'Égypte, qui avaient connu la misère, la souffrance, la servitude, qui avaient connu la puissance de Dieu pour les faire sortir de la férule de Pharaon, qui avait connu le passage de la mer Rouge, qui avait connu un petit peu antérieurement eh bien, la manifestation à travers les 10 plaies où Israël avait été préservé, où le jugement était passé outre les Israélites. Eh bien, ces gens-là, quand ils se sont retrouvés dans le désert, se sont mis à tourner, comme un petit peu les chenilles suivantes, hein, les suiveuses, et qui ont tourné autour du pot. Hein. Et nous nous apercevons que leur piétinement aux Israélites dont nous parlons n'a pas duré moins que 38 ans. C'est quelque chose de terrible. Hein. Dieu avait prévu de les instruire dans le désert pendant à peu près 2 années après le passage de la mer Rouge, mais parce qu'ils étaient révoltés, parce qu'ils avaient... Là, ils avaient dans leur cœur de l'incrédulité, ils ne voulaient plus croire Dieu, ni Moïse, ni les uns les autres dans les princes d'Israël. Eh bien, ils sont restés enlisés dans un fait, tout simplement par le fait, un état, une disposition intérieure de l'incrédulité. Ils refusaient de croire. Pourtant, ils étaient environnés de miracles tous les jours, à travers la manne, à travers l'écaille hein, qu'ils ont mangé, puisqu'ils réclamaient de la viande, à travers l'eau. Dans un désert, il n'y a pas d'eau. Et pourtant, Dieu les abreuvait à une source miraculeuse, on peut dire cela de cette manière. Alors que de révolte, que d'incompréhension à la volonté de Dieu, Dieu leur avait dit, eh bien écoutez, moi je vous fais sortir du pays de la servitude, je vais vous conduire dans le désert pour que vous appreniez les rudiments de la foi, à m'aimer, à m'obéir, et vous serez en bénédiction, vous serez bénis, et puis... Eh bien, tout simplement, parce que les choses ne leur convenaient pas. Ils préféraient encore retourner en Égypte, dans la servitude, dans la misère, dans l'esclavage, que finalement de vivre dans ce temps où véritablement, eh bien, ils étaient environnés de miracles, tout simplement. Alors, tourner en rond, c'était leur condition. Et vous savez que dans les ronds-points, heureusement, on a aménagé des issues. Hein. Parce que bon, une fois que vous êtes dedans et que vous ne retrouvez plus la porte, vous pouvez... Alors il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a des multiples aussi. Maintenant on fait des ronds-points avec plusieurs sections, enfin toutes sortes de choses. Et on peut parler à ce moment-là d'une ornière. Une ornière de la vie. Tomber dans les ornières de l'existence. C'est pour ça que, bon déjà on s'approche un peu de la signification de ce titre, les habitudes parasitées. Voilà. Hein, on a des habitudes, il y en a des bonnes, il y en a des médiocres, il y en a des très mauvaises. Mais une fois qu'on est dedans, on ne sait plus tellement où trouver la porte. Et ce qui était terrible, c'est que pour les Israélites, quand ils tournaient pendant 38 ans en rond dans le désert, ils savaient, ils regardaient autour d'eux à l'horizontale, mais ils ont oublié de regarder à la verticale. Parce que l'issue, parce que pour sortir de ce grand désert qui était comme... Eh bien là, un manège en quelque sorte, il ne fallait pas qu'ils regardent en bas, il fallait qu'ils regardent en haut, parce que Dieu leur avait fait des promesses. Et ils étaient à proximité finalement de la porte de sortie, parce que là où ils se sont révoltés, entre autres, parmi d'autres murmures, parmi d'autres révoltes, c'était quand ils étaient à proximité finalement, à passer le Jourdain dans la contrée finalement de Canaan. Ouais, quelquefois dans la vie il y a des sillons comme ça, il y a des ornières, il y a des fossés, on les appelle comme on veut, on peut les appeler des tranchées, hein, de sinistre mémoire les tranchées, parce que les pauvres qui étaient dans la tranchée, hein, ils pouvaient peut-être éventuellement s'enfuir, mais ça, ils passaient pour des traites, et puis, tout simplement. Mais c'est ça le problème, et je voudrais souligner justement qu'il y a des situations dans la vie des hommes, même dans la vie des chrétiens, même dans la vie des enfants de Dieu, où véritablement ils sont enfoncés, engoncés, ils sont enlisés dans un fossé ou dans une tranchée, et dont ils ne peuvent pas sortir, parce qu'ils n'ont pas trouvé. Parce que, quelque part, ils sont en train de tourner en rond, ils se posent mille et une questions, ils sont pétris, finalement, d'incompréhension, et ça les amène à douter, ça les amène à se révolter, ça les amène à maugréer, finalement, tout le contraire de ce qui peut développer la foi. La foi, c'est la confiance. C'est tout simplement, et pour le chrétien, ou pour celui qui veut s'approcher de Dieu, eh bien, Dieu ne nous trompe pas. Quand il nous dit qu'il nous conduit de là à ici, quand il nous fait la promesse, finalement, d'une terre promise, d'une meilleure situation, de meilleures conditions de vie et d'un affranchissement à la fois de nos conditions extérieures, mais également de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est que Dieu ne se trompe pas. Et c'est là, justement, où il faut lui faire confiance. C'est là où nous disons, mais nous voulons voir, nous voulons goûter, nous voulons toucher. C'est ce que faisaient les Israélites. Et plus, quelque part, ils maugréaient, plus ils creusaient le sillon et plus ils s'enfonçaient, si on peut utiliser cette image. Dans, précisément, le livre de Deutéronome, et c'est là où, justement, j'aimerais eh bien, donner l'illustration de cet épisode. Dans Deutéronome, chapitre 2, je lis le texte simplement, il est dit ce passage, et je commenterai un peu dans le détail. Il est dit ceci, chapitre 2, verset 1er, « Nous nous tournâmes, et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. » C'est Moïse qui parle, mais pour conduire le peuple dans la bonne direction. « Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. » C'est la montagne dans le désert, c'est vraiment un lieu inhabitable, un lieu déshérité. « L'Éternel me dit, » toujours à Moïse, mais pour le peuple, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. » Parce qu'il tournait, il tournait, il tournait, hein. Voilà, hein, aujourd'hui, les montagnards, ils ne se contentent pas de tourner autour, ils montent. Ils montent, hein. Voilà. Tournez-vous vers le nord. Tournez-vous vers le nord. Et dans la situation de Séhir, eh bien, c'était en quelque sorte se tourner vers le pays de Canaan. Regardez, c'est encore à l'horizon, c'est un horizon qui est... Hein, le pays que je vous ai promis, il existe, il est là, vous ne le voyez pas, mais faites confiance. Déjà, mettez-vous en position, mettez-vous dans cette configuration où vous allez fortifier votre détermination, même si vous ne le voyez pas, ça existe. Et c'est ça, justement. Quand on est enfoncé dans une tranchée, ou dans un sillon, ou dans quelques fossés, ben, on est plus bas. Et notre perspective, notre horizon, eh bien, il est finalement ras-terre. Hein. Et c'est ça, justement, le gros problème. C'est que beaucoup de les Israélites en premier, ben, ils font un peu comme les chenilles, ils tournent, ils tournent, ils tournent, et puis plus ils tournent, plus ils creusent, et moins ils voient, et moins ils comprennent, c'est ça, parce que moins ils ont la vision eh bien, des promesses de Dieu, de la grâce de Dieu. Le verset premier nous dit tout simplement qu'ils se sont tournés, c'est déjà pas mal, et ils sont partis. Et ça, ça veut dire tout simplement, d'après ce que Dieu disait à Moïse pour transmettre au peuple, eh bien, déjà, se tourner, c'est déjà bouger. C'est pas rester statique, c'est déjà... Et puis de partir. Partir, c'est commencer à marcher. C'est mettre un pas devant l'autre, tout simplement. Et ça pourrait signifier pour un croyant, pour un chrétien, pour celui qui veut découvrir Dieu, eh bien, ça signifie tout simplement croire, et croire, c'est obéir. Si je crois, alors à ce moment-là, je vais pas dire je crois, je crois, je crois, mais qu'il n'y a rien derrière, mais croire... Il va y avoir, eh bien là, un acte qui va concrétiser ce que je crois. Parce que je le crois, je vais le faire. Et le Seigneur est là pour nous aider, hein. Parce qu'il nous a créé, eh bien il crée en nous le vouloir, la volonté, et le faire, l'action, selon son bon plaisir. Il ne nous trompera jamais. Le verset 2 nous parle d'une destination à travers le désert. C'est-à-dire que c'est un espace où il n'y a rien. C'est un espace comme une école, quelque part, une école divine pour apprendre les choses. C'est souvent à travers les épreuves et les difficultés de la vie que nous apprenons les plus grandes leçons de notre vie, de notre existence. Ça, c'est vrai. Donc, le désert, et le désert, c'est la lenteur et c'est la longueur. Et c'est difficile. Là, il y a un exercice de patience. Je ne vois pas, mais je crois. Et ce que je crois, à un moment ou à un autre, va se révéler une réalité. La lenteur et la longueur. Le verset 3, par exemple, nous parle d'un changement de cap. Voilà. Je me lève. Nous avons dit que nous nous tournons. Ensuite, nous nous mettons dans cette disposition à partir. À travers, finalement, eh bien, les aléas de ce voyage, lenteur et longueur. Et puis, il y a cette destination qui est marquée. C'est-à-dire, on change de cap. On va vers le nord, et je l'ai souligné tout à l'heure, le nord, c'était la zone qui pouvait illustrer où se trouvait finalement eh bien là, le pays de Canaan. À l'horizon, il y avait le pays de la promesse. Et c'est exactement ce que Dieu veut nous rappeler pour chacun d'entre nous. C'est que Dieu, c'est plus le Canaan d'hier, mais aujourd'hui, nous avons un Canaan à travers toute l'histoire du Nouveau Testament, je parle bien du Nouveau Testament, avec un guide qui n'est pas Moïse, mais qui est plus que Moïse, c'est Jésus. Parce que lui, il a tout accompli. Parce que lui, il a tout réalisé à notre place. Ce n'est plus la loi, mais c'est la foi. Ce n'est plus la rigueur, mais c'est la grâce. Tout ça environné d'un amour manifesté de la part de celui que l'on appelle Dieu, mais manifesté à travers la personne de Jésus-Christ. Qui se révèle, parce que Dieu est esprit, donc il est invisible, mais Jésus-Christ s'est incarné dans un corps, hein, tout simplement pour révéler qui est son Père, et qui est notre Père, d'une manière physique. C'est ça le grand mystère, ou plutôt, c'est plus un mystère maintenant, mais la grande révélation de l'incarnation de Jésus, Dieu fait homme, pour que nous puissions, eh bien là, reconnaître l'empreinte de la personne de Dieu, et sa gloire aussi. Donc, changement de cap vers le nord, à l'horizon, c'est le pays de la promesse. Et pour nous, c'est la même chose. À chaque pas que nous faisons, eh bien, il y a toujours une ou plusieurs promesses pour notre vie au quotidien. Ouais. Si nous voulons véritablement le croire, nous avons des besoins. Eh bien, les besoins, ils sont pourvus. Mais il faut saisir ces besoins avec ce que j'appellerais, c'est aussi une vue de l'esprit, avec la main de la foi. Ouais, c'est pas la main charnelle, mais la main de la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que nous dit finalement eh bien, Jésus dans l'évangile de Marc, je crois, chapitre 11, peu importe. Donc, bougez, remuez et avancez. Pas à la manière on les a appelés des chenilles processionnaires, parce que là, à ce moment-là, on tourne en rond. Il y a le pays de Canaan au milieu, mais elles préfèrent encore eh bien, mourir de faim, parce qu'elles n'ont pas la volonté de sortir du rang et de dire, eh bien voilà, maintenant, on va prendre une autre direction. Mouton de panurge. Et le monde aujourd'hui, comme on a pu l'observer dans bien des siècles, quand on regarde la vie sociale, quand on regarde, oui, particulièrement, quand on regarde la vie politique, la vie religieuse aussi, est profondément marquée par... Eh bien, cette accoutumance où on ne se pose même pas la question, où là, eh bien, on est un peu comme les chenilles processionnaires. D'ailleurs, je pensais, mais ça m'est personnel, mais on a connu, nous, quand on était enfants, les processions. Hein, et tout le monde suit, même si on ne comprend pas. Parce que c'était comme ça. Il y avait une visibilité, finalement, de l'Église de ce temps-là, comme encore aujourd'hui, mais sous une autre forme, puisque maintenant, c'est encore une autre présentation qui est faite avec les médias, avec les moyens, la technologie d'aujourd'hui. Mais toujours est-il, on a connu ça. Voilà, des processions, des chenilles professionnelles, tout en respectant, finalement, eh bien, les êtres. Maintenant, les méthodes et puis tout ce qui peut être fait, c'est autre chose. Bouger, remuer, avancer. Soutenu par le soutien invisible de Dieu. La foi, c'est ça, c'est ça. Alors, nous l'avons lu un peu plus loin, Dieu t'a béni, alors on l'a dans le texte, au verset suivant, au verset que je retrouve, c'est le verset 7 et 8, et je vais le relire, « car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi et tu n'as manqué de rien. Ça, c'est pas formidable. Est-ce que c'est pas une promesse de Canaan? Est-ce que c'est pas une promesse finalement de la terre promise? De ce que Dieu nous donne à travers eh bien, tout ce qu'il nous est dit dans le message de l'Évangile. Il t'a béni. C'est vrai que tu as souffert de la servitude en Égypte. C'est vrai que tu as souffert également de cette marche où il n'y avait jamais d'horizon, puisque c'était comme un mirage dans le désert. Mais il t'a béni. Il a connu tes peines et tes douleurs. Dieu nous le rappelle à tous ceux qui se désespèrent, à tous ceux qui sont là en train de tourner en rond et qui n'en finissent pas, et qui n'en finissent pas de, finalement, de rien, en quelque sorte. Qui vivent une vie de médiocrité parce que voilà, ils sont dans le fossé, ils sont dans la tranchée et il n'y a rien d'autre à faire. Il a connu ta solitude, parce que c'est ça, ce ressenti. L'âme a besoin d'avoir de l'environnement. Il a besoin d'avoir des contacts avec d'autres, mais il a surtout besoin d'avoir un contact avec son Dieu. Eh oui, parce qu'autrement, vous savez que, si l'on peut dire les choses comme ça, dans les peines éternelles, et je ne prêche pas ça, mais dans les peines éternelles, la caractéristique de cette, pour tous ceux qui seront finalement, eh bien là, qui auront rejeté Dieu, qui auront renié Dieu, peut-être, eh bien ça sera justement l'absence de Dieu, l'absence de la présence de Dieu. Alors que dans la félicité, il nous est parlé que nous serons avec notre Dieu, qu'il sera avec nous. Et c'est le livre de l'Apocalypse qui nous affirme tout cela. Donc, il a connu ta solitude, c'est-à-dire ton désert. Mais il est bien dit, hein, nous l'avons souligné, tu n'as manqué de rien. Et c'est vrai, on peut traverser toutes sortes de déserts. Toutes sortes de déserts, que ça s'appelle maladie, que ça s'appelle accident, que ça s'appelle peut-être revers de fortune, sur le plan matériel, sur le plan économique, toutes sortes de choses sur le plan affectif. Mais tu n'as manqué de rien. Parce que si tu le regardes bien, le Seigneur qui t'a pris, le Seigneur qui t'a appelé, il te conduira jusqu'au bout. Maintenant, ne t'embourbe pas, ne t'enlise pas dans la tranchée où tu tournes et tu tourneras encore. Ce n'est pas de regarder à l'horizontale, c'est de regarder et de crier à la verticale. Alors, tu pourras dire, mais Seigneur, c'est vrai, j'ai traversé tout ça et je n'ai manqué de rien. Les ornières et les tranchées de la vie que nous creusons nous-mêmes. Eh oui, parce que c'est bien ce qui se passait. Dieu n'était pas en cause, parce que souvent on est prompt à accuser Dieu, de dire, voilà, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, eh bien, hein, c'est de la faute de Dieu, si Dieu existait, eh bien, ça ne serait pas comme ça, Dieu est injuste, Dieu ne m'aime pas. Enfin bon, on peut toujours... Et on continue à creuser, finalement, eh bien, ces ornières. Alors, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. D'ailleurs, dans le livre du prophète Jérémie, dans les Lamentations, Dieu dira que l'homme s'en prenne à lui-même et à ses propres péchés. Ça, c'est sûr. Au lieu d'accuser les autres, la société, d'accuser finalement notre environnement. Alors, nous creusons nous-mêmes nos propres ornières, par conformisme, parce que nous ne voulons pas finalement nous démarquer. Il y a beaucoup d'excentricité dans ce monde. Mais l'excentricité que nous voyons autour de nous, elle est... quelque part, en conformité avec un état d'esprit aussi. Donc, c'est pas du conformisme. De vrai conformisme, c'est autre chose. C'est d'avoir le courage. C'est d'avoir la hardiesse. C'est d'avoir l'audace de dire, eh bien, non pas, je ne ferai pas comme tout le monde, mais dans ses idées, moi, je pense qu'un véritable chrétien de l'Évangile, c'est quelqu'un qui ne marche pas, finalement, dans les tranchées, dans les fossés qui sont autour de lui. Non, il a le courage de dire, moi je crois en Jésus-Christ, je n'ai pas honte, finalement, de ma foi. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de dire que je suis sauvé, que je crois qu'il y a là une autre vie. Je n'ai pas honte de dire que, eh bien, Dieu est venu vers moi, il m'a donné une nouvelle naissance, qu'il a pardonné mes péchés. C'est ça, justement, cet anticonformisme, parce qu'il y a tellement de fausses hontes, de tout ce qui est, eh bien, tout ce qui est... apparenté à Dieu, voilà, je comprends que la religion n'a jamais rien arrangé dans cette affaire, mais les vrais vainqueurs et les valeureux, eh bien, on les trouve dans l'histoire de l'Église primitive, des premiers chrétiens. Et on les trouve encore aujourd'hui sur toute la surface de la terre, où devant des oppositions, des tyrannies, des persécutions, ils disent, eh bien voilà, non pas qu'ils se mettent à face finalement la chemise ouverte en disant tirez-moi dessus parce que bon, voilà, je... Non, mais il y a beaucoup de souffrance, hein. Mais ils sont capables d'aller jusqu'au bout, hein. Ça c'est vrai. Donc, par conformisme, par habitude que nous avons prise, les habitudes religieuses sont profondément délétères. Finalement, eh bien là, ce dont nous parlons, et puis l'évitement d'efforts. Moi, je préfère rester dans mon petit coin, dans ma tranchée, dans mon sillon, tranquille, dans mon terrier, dans mon gîte, si on a un lièvre, et comme ça, je ne fais pas trop d'efforts, je suis tranquille. J'ai peut-être pas une vie pleine et entière, peut-être on pourra dire que c'est une vie médiocre, mais néanmoins, j'évite les efforts. Voilà. Alors il y a des efforts, on est prêt à faire beaucoup d'efforts pour grimper sur une montagne ou pour décrocher la lune, mais les efforts par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie profonde, notre vie, là, c'est quelque chose de pouvoir dire, eh bien, moi je vais faire comme le fils prodigue, je vais aller vers mon père, je lui raconterai tout ce que j'ai fait, j'aurai le courage de me repentir, j'aurai le courage, finalement, eh bien, de me remettre en cause pour que je puisse changer, pour que Dieu me change. Et qu'il me renouvelle, qu'il me revêt d'un nouvel habit, d'une nouvelle vie. Ça demande beaucoup d'efforts, parce que c'est une question de vérité, c'est une question d'honnêteté, c'est une question de probité avec soi-même, et avec Dieu, et puis aussi avec les autres. Voilà, évitement d'efforts, parce qu'elle trace le chemin, et que l'on craint de s'égarer vers un inconnu qu'on ne connaît pas naturellement, et un inconnu qui fait peur. Alors on préfère rester tranquillement dans sa petite croyance, dans ses petites habitudes, dans toutes sortes de choses qui nous appartiennent. Et finalement, on s'est fait un petit nid douillet dans tout cela. Et on se dit, de toute façon, en matière d'espérance, on se dit, mais de toute manière, voilà, y en a d'autres qui pensent à ma place, ils vont le faire à ma place. Voilà. Sortir du sillon demande du courage et de la volonté. Ouais. Comme ces chenilles processionnelles, il n'y en a pas une seule qui a pensé. Elles avaient toutes faim. Excusez-moi l'expression, on peut le dire pour les animaux, mais elles crevaient de faim. Elles avaient à côté d'elles, au milieu d'elles, au milieu du pot, elles avaient de quoi manger, et peut-être ce qu'elles se délectaient. Mais elles n'y ont pas touché, parce qu'on tourne, on tourne, on tourne, on continue. Voilà. Alors, oserons de faire et d'être comme tout le monde, de dire, eh bien voilà. Ça ne veut pas dire que nous sommes en opposition au monde entier. Ça ne veut pas dire que nous sommes là des juges et des redresseurs de tort. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Mais de dire, eh bien voilà, moi, je montre ouvertement mon drapeau, je sais qui je suis et je n'ai pas peur de le montrer. Et il y a un prix à payer dans tout cela, naturellement. C'est une chaîne processionnaire, on peut le dire et le rappeler. Encore une image qui va couleur notre message. Un homme un jour a eu l'idée, saugrenue, je tiens à le mettre au passage, de placer, écoutez bien, un œuf d'aigle dans un nid de poule. Alors, quand je dis de nid de poule, ne nous en prenons pas à la DDE et puis tout ce qu'il peut y avoir sur nos routes, avec quelquefois où le travail n'est pas toujours fait. Alors, on sait ce que c'est qu'un nid de poule. Mais là, c'est un vrai nid de poule, dans une ferme. Puis l'œuf, au bout d'un certain temps, quelques temps après, l'œuf du poussin aigle a éclos avec une nichée de poulet. Ben oui, c'est normal. Hein, c'était tout à fait, vous pouvez le comprendre de cette manière en tous les cas. Alors au milieu de ceci, ce petit aigle a fait ce que font tous les poulets. Ben oui, parce que... Qu'est-ce qu'il pouvait avoir? Quelle école pouvait-il avoir? Il était peut-être un gros poulet, un petit peu plus gros, il n'avait peut-être pas tout à fait le même bec, et puis au niveau des pattes, c'était un petit peu plus acéré. Ça. Alors il a fait tout ce que font les poulets. Il grattait la terre, il cherchait des graines, des vers de terre, enfin voilà, toutes sortes de choses. Il caquetait, c'est-à-dire qu'il avait le même langage en quelque sorte, mais sans jamais voler. Le problème, c'est que... Ou alors, il était peut-être trop nourri, je ne sais pas. Voilà, donc, on en est là. Un jour, le fameux aiglon dont nous parlons, voit un de ses congénères tournoyer dans le ciel. Un ciel d'azur, un ciel magnifique. Et là, il s'est dit tout simplement, mais quelle est cette merveilleuse créature? Eh oui, jusqu'ici, il avait toujours vu la terre, il avait toujours vu l'horizon, il avait toujours vu le ras du sol, tout simplement. Alors quand il a vu ça, je ne sais pas, il y avait peut-être quelque chose qui a bougé à l'intérieur de lui-même, dans son tréfonds, hein, au plus profond de lui-même. Et un de ses frères poulets, permettez-moi l'expression, mais il lui a répondu tout simplement, c'est un aigle, c'est le roi des oiseaux, c'est le roi du ciel en quelque sorte. Mais toi, poulet, comme nous, tu ne pourras jamais faire pareil. On tourne, on tourne, on tourne, on reste au ras du sol, plus finalement on gratte, plus on creuse, et moins on voit, moins on comprend. Et on s'enferme dans une sorte de vie que l'on peut quelquefois trouver confortable, mais quelquefois qui peut devenir aussi impossible. Alors l'aiglon se remet à picorer dans la boue, et comme les chenilles, il meurt en n'ayant jamais autrement pensé et vécu comme un vulgaire poulet. Eh oui, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que Dieu, quelle ambition Dieu a-t-il pour nous? Quelle vision Dieu a-t-il pour nous? Est-ce qu'il veut que nous soyons des hommes de la terre et des hommes de la terre jusqu'au bout et nous finirons dans la terre? Ou est-ce qu'il veut que véritablement nous ayons une perspective où nous pouvons nous développer, où nous pouvons avoir cette espérance puissante qui est une dynamique, de la dynamite en quelque sorte, à l'intérieur de nous-mêmes, et lever les yeux vers le ciel en sachant que nous avons été appelés à vivre avec Jésus dans une autre dimension où eh bien, toutes les contingences de la terre auront disparu. Et si l'on lit par exemple l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, si ma mémoire est fidèle, il nous est parlé d'un corps infirme, il nous est parlé de l'incorruptibilité, de l'immortalité, il nous est parlé de toutes sortes de choses, comme Jésus a sa propre résurrection, et si nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ, eh bien c'est ça ce qui nous attend. Sortir, arrêter, rompre les rangs, en quelque sorte. C'est ça le courage d'être chrétien. Non pas un chrétien de nom, mais un chrétien de cœur, un chrétien qui s'est repenti de ses péchés, un chrétien qui a confessé ses péchés à Dieu, pas aux hommes. Maintenant, s'il y a demandé de présenter des excuses, demander pardon, il faut le faire. Mais à travers une expérience de conversion, d'un choix personnel, maintenant je choisis Jésus, je choisis sa parole et l'évangile, et c'est elle la règle, c'est elle le principe de ma vie maintenant. Et Dieu va répondre à cette décision de l'homme, il va répondre à la conversion par la nouvelle naissance qui est la réponse de Dieu au choix que l'homme a fait de le choisir. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, cet aigle, ben, il n'a pu avoir que comme modèle ce qu'il y avait autour de lui, tout simplement. Eh bien nous avons un autre modèle, c'est Jésus. Je ne dis pas que c'est une religion, je ne dis pas que c'est un homme de Dieu particulier qui serait eh bien là à titre exceptionnel. Non, ce n'est pas ça. C'est la personne de Jésus. C'est les qualités de Jésus. C'est les fruits d'une vie nouvelle que nous trouvons en Jésus, que Jésus a payé sur la croix du calvaire. Une nouvelle, finalement, dimension. C'est ça ce qui est extraordinaire. Sortir. Et là, nous pouvons parler de pays de la promesse, parce que c'est quelque chose de réel, nous l'avons dans notre cœur, et c'est tellement fort que c'est une assurance, c'est une certitude, c'est une conviction à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être certains nous diront, mais ils sont complètement frappés, parce que bon, ben oui, mais ces convictions, c'est Dieu qui les a mis dans notre cœur. Et la Bible vient encore nous dire que ce témoignage, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'esprit de vérité, qui nous conduira vers la vérité, et qui nous conduit finalement eh bien, à sortir de nos ornières. Ils erraient dans le désert, hein, quand on reprend le texte de l'origine. Ils marchaient dans la solitude, c'est la misère ça, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Nous, ce n'est pas une ville que nous cherchons, ce n'est pas une cité que nous cherchons, ce n'est pas une maison que nous cherchons, c'est une autre dimension. Il nous est parlé dans la Bible que pour les enfants de Dieu, pour le chrétien, il y a des palais d'ivoire dans le ciel. Il y a le temple de Dieu, qui ne sera pas matériel, mais qui sera d'une autre dimension, en pleine lumière, dans la paix, dans le bonheur. On appelle ça la félicité, tout simplement. Je termine. Osez l'aventure de la foi. Sortons de ce carcan qui nous fait là tourner en rond comme les chenilles. Et puis osons demander à Dieu, parce que ça n'arrivera pas par nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui allons nous faire notre, entre parenthèses, notre religion. Et Dieu se moque d'une religion. Il veut des conversions. Il veut des nouvelles naissances. Il veut des hommes changés, transformés. Demandez, osez demander à Dieu une nouvelle vision pour notre vie. Seigneur, donne-moi autre chose. J'ai vécu beaucoup de choses, mais j'ai besoin de vivre encore de nouvelles choses pour que je puisse être en bénédiction à ta gloire, à ton nom, que je puisse être en bénédiction à tous ceux qui m'environnent, au monde dans lequel je suis, apporter une lueur, une flamme, un feu d'espérance. Oui, osez demander à Dieu cette vision. Ne pas rester dans l'alignement conformationnel dans lequel on est renfermé, vous savez. On est formaté dans notre monde, dans bien des domaines, dans notre vie professionnelle, dans notre vie morale, surtout dans notre vie morale. Voilà, en fonction des options, en fonction des goûts, peut-être des tendances qui sont les nôtres. Mais, en quelque sorte, c'est un alignement conformationnel de Monsieur Tout-le-Monde. Et le Seigneur nous appelle à dire, mais tu n'es pas Monsieur Tout-le-Monde, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un pour moi, parce que tu as cru en Jésus-Christ, parce que tu as reçu le salut en Jésus-Christ, parce que tu as eu le courage de demander que Dieu te transforme et te change et qu'il te pardonne. Et quand on a bien compris qu'on pouvait être pardonné par Dieu à travers Jésus-Christ, ce sera facile de pardonner aux autres aussi. C'est la logique. Ouais, Dieu a du nouveau pour nous. On tourne, on tourne, on tourne, et il nous dit maintenant, il est temps de prendre un autre chemin. Et Dieu a quelque chose de nouveau, c'est devenir vraiment nous-mêmes et ne plus être des moutons de panurge. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne sa grâce et que véritablement ça puisse être un enrichissement ou une ouverture d'esprit ou une découverte, une lumière, une lampe qui brille peut-être dans nos ténèbres et peut-être l'oasis au milieu de notre désert. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas là pour interpréter les choses, mais nous sommes là avec des images. Et la Bible est un livre d'images. C'est une formidable illustration dans l'histoire. L'histoire des hommes, l'histoire d'un peuple, Israël. L'histoire des chrétiens, l'histoire de Jésus. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous pouvons aussi nous inspirer, comme toi tu l'as fait dans tes paraboles, dans les paraboles. Tu t'es inspiré de la nature, tu t'es inspiré des animaux, des oiseaux, tu t'es inspiré, Seigneur, de tout ce monde, en effet, qui, eh bien, existait de ton temps, dans ton pèlerinage terrestre. C'est vrai que tu nous as laissé de belles histoires. Et ces histoires, ce sont des histoires à caractère, avec un caractère moral. Mais plus que cela, Seigneur, il y a derrière ces histoires une leçon spirituelle extraordinaire. Nous te remercions et nous te bénissons parce que tu connais combien le monde est malheureux, combien le monde est à la recherche, combien le monde s'illusionne, comment le monde se tranquillise ou se sécurise lorsqu'il est environné, Seigneur, des gens qui lui ressemblent. Seigneur, alors nous ne voulons pas ressembler, faire n'importe quoi, mais nous voulons ressembler à Jésus. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Merci Seigneur de ce que tu visites tous nos amis qui écoutent ta parole, qui lisent ta parole, qui peut-être en effet se connectent sur ces messages à travers Internet. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, bénis-les, nous te le demandons. Et qu'ils puissent trouver, Seigneur, une nouvelle dimension, un nouvel essor, une nouvelle vision. Merci Seigneur Jésus. Amen.